Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi venus aussi nombreuses et nombreux dans cette librairie, dans ce patio où on accueille des personnalités de renom dont fait partie Isabelle Alonso, que tout le monde connaît. Je pense que je ne vais peut-être pas... Je vais la présenter, bien sûr. Elle vient, nous vient d'Espagne, mais d'Espagne de loin de ses origines. Mais elle nous vient récemment de Valence, hein, c'est ça ?
Oui, j'étais invitée à une conférence à l'Université de Valence où il parlait de mes livres. Autant vous dire que je suis gonflée à bloc, là. J'ai pris un boost, un ego trip de première catégorie. Donc voilà, je suis très contente. Donc je suis ravie d'être ici. C'est alors, très voilà, différent.
C'est les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors on surfe un peu sur la banquise, puisque le titre du livre va nous suggérer cette dérive. Géographique, La peau de l'ours, qui est édité par les éditions du Rocher. Là, vous l'avez entre les mains. Si vous ne l'avez point, il est à côté. Et voilà un livre qui va certainement nous ramener à La Fontaine, parce que ça nous ramène quasiment 350 ans en arrière. Il y avait une patte de La Fontaine qui évoquait l'ours et les compagnons. Voilà.
J'en apprends tous les jours.
Ah, mais alors ça ne veut pas dire... Bien évidemment, là, c'est un côté fabuliste et fabuleux, puisqu'on dit souvent qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans l'état du moment, on peut considérer que là, pour l'ours, il est bien par terre avec notre planète. Isabelle va certainement évoquer tout ce qui peut détruire les équilibres naturels, les distorsions entre les acteurs. Et c'est vrai que cette métaphore de l'ours sur cette banquise, moi, ça m'a touché. C'est une couverture très touchante qui donne le ton du livre. Parce qu'on pense souvent que les désordres climatiques et économiques entraînent parfois beaucoup de misère. Et ça, je pense que ce livre-là, bah, il démarre assez fort déjà. Et moi, j'ai trouvé sympa. Déjà, la couverture me suggère ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'elle dit « Il perd le pôle, moi je perds le nord ». J'ai trouvé ça superbe.
Ben oui. En fait, l'image, c'est que je me sens aussi désorientée que ce pauvre ours que je ne suis pas allée chercher chez La Fontaine, mais sur l'écran de mon ordinateur. Un jour, je ne sais pas ce que je cherchais, mais en tout cas, je suis tombée sur cette photo que je crois que tout le monde a vue, qui est un ours qui est sur la banquise, qui a levé une patte et qui n'a pas l'air de savoir comment il va pouvoir la reposer, parce que la glace sur laquelle il est, le morceau de banquise sur lequel il se tient, est en train de fondre. Et le jour où ça va fondre pour de bon, l'ours est foutu, quoi. Et j'y voyais une belle métaphore de l'humanité elle-même, parce que nous non plus, on tient pas très fort. Et en particulier, j'ai voulu écrire ce livre pour nous autres, gens de gauche, parce que je ne sais pas si les gens de droite sont aussi malheureux que nous, j'en sais rien. J'espère pour eux que non, puisqu'ils ont le pouvoir autant qu'ils en profitent. Mais en tout cas, pour nous autres, c'est pas très facile de ne pas arriver à coordonner nos sentiments sur ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la défense de l'environnement et vis-à-vis de la politique en général et le résultat qu'on en voit dans les urnes.
Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le bandeau du livre évoque... c'est un bandeau qui est intégré à la couverture. Hein. Pourquoi je reste de gauche ? Alors ça, c'est vrai que c'est une excellente question. On pourrait lui demander pourquoi elle reste de gauche, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, être de gauche, c'est courageux de dire qu'on est de gauche, parce que le bateau est chahuté. On peut considérer quand même qu'il n'est pas nécessaire de quitter le navire, mais la gauche perdrait-elle ses valeurs et ses engagements historiques ? Et je pense que ça, c'est un état des lieux qu'a pu faire Isabelle dans son livre, là.
Ben, ce que je trouve très dommageable, c'est que je crois que c'est à gauche qu'on a la vision la plus novatrice et la plus constructive de la société. C'est sur les propositions de gauche qu'elles existent. Et en même temps, le personnel politique de gauche n'arrive pas à faire la seule chose à faire par gros temps, c'est-à-dire à s'unir, à rassembler ce qu'on a en commun, pour essayer de faire en sorte qu'on améliore la situation. Au lieu de ça, on se divise tant et plus, et en ce moment, c'est ce qu'on voit. Et je trouve ça très dommage, parce que ça va permettre à la droite, voire à l'extrême droite, de rester au pouvoir ou de s'y installer. Et ça me... Je trouve ça très déprimant. Alors j'ai essayé d'écrire un livre qui remonte le moral des troupes et qui redonne confiance en soi et qui nous redonne la fierté d'être qui nous sommes. Parce que quand même, si la société a avancé depuis 50 ans, c'est bien grâce à la gauche, quoi.
Oui, ça fait quand même 30 chapitres.
Et aux féministes.
Le livre est chapitré de telle façon que toutes les valeurs de la gauche sont inventoriées. Et un regard sur ce livre permet de traverser tout ce que la gauche ne doit pas abandonner. Qui en fait sa caractéristique, ses valeurs, c'est l'égalité, progressisme, insoumission, fraternité, tolérance, solidarité, protection de l'environnement, justice sociale, travail, liberté. Tout ça, c'est abordé dans le livre. À un point, je me suis demandé s'il ne faudrait pas 2 heures ou 3 heures pour évoquer tout ça, mais on va essayer de faire quand même la synthèse. Vous désolez, en fait, de l'incapacité de toutes les forces sociales humanistes à s'unir dans une volonté claire. Et c'est vrai que dans un monde en pleine décomposition, pour moi, le livre, il est plein d'espérance. Hein. C'est vrai.
Ah oui, absolument. Absolument. Je m'en voudrais d'écrire un livre triste ou déprimant. C'est le contraire que je veux faire. Et il s'adresse donc aux gens qui sont déjà vaguement convaincus d'avance, parce que c'est à eux que je veux parler, parce que c'est avec eux que je me sens en connivence, si vous voulez. Et vous dites que j'aborde beaucoup de sujets, mais je ne vous explique pas le nombre de sujets que j'ai laissé tomber pour pas que le bouquin ressemble à un catalogue. Non, ça n'existe plus, les catalogues. Enfin bref, vous voyez, un énorme bouquin.
On essaiera de ne pas perdre trop d'impasse, on essaiera d'aborder les sujets les plus importants. Et c'est vrai que moi, je me suis posé même la question, mais c'est quoi ? C'est être de gauche. Alors être de gauche, je me suis demandé si c'était souhaiter une société plus juste en réduisant l'écart entre les riches et les pauvres. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui paie que quelqu'un est de droite ? Parce que quand on est à gauche, et ben, c'est qu'il y a quelqu'un à droite. Alors ce qui paie qu'à la Révolution française, les gens qui étaient à droite du roi de l'Assemblée, ils se sont mis à droite. Et puis ils étaient institués à gauche. C'est ce qui explique pourquoi les gens sont à gauche, sur le plan strictement organisationnel. Mais sur le plan des principes, la droite... Elle épelle l'éloge de la réussite individuelle et de la sécurité, et la gauche un peu l'égalité. Alors c'est là où on arrive dans le cœur du livre. On commence le livre, on embraye avec Bébert. Alors Bébert, c'est
l'ours.
L'ours. Einstein.
Je l'ai appelé Bébert, oui, en hommage à Albert Einstein, autant lui donner de l'intelligence à cet ours, puisque l'être humain a la fatuité de se considérer comme intelligent. Alors j'ai décidé qu'un quadrupède pouvait aussi s'appeler Albert comme Einstein, mais pour pas faire trop sérieux, je l'ai appelé Bébert, donc Bébert, l'ours polaire. Je raconterai peut-être la suite de ses aventures s'il n'est pas mort avant. Mais moi, enfin, pour répondre à votre remarque, pour moi, c'est assez simple. Hein. On appartient à une société et il y a un groupe de gens qui veut que la société reste ce qu'elle est, avec les privilèges ou les injustices qui sont dedans parce qu'ils y trouvent leur compte, ou parce qu'ils pensent que c'est bien comme ça, ou parce qu'ils pensent qu'on ne peut rien y faire. Et puis, il y a les gens qui essayent d'arranger les choses en face, c'est les progressistes. Dans toutes les sociétés, dans tous les pays, il y a toujours un conflit entre conservateurs et progressistes. Alors, il est bien évident, beaucoup plus compliqué d'être progressiste, puisque quand on veut changer la société, tout le monde a sa petite idée sur la question et tout le monde a envie de la défendre. Quand on veut conserver les choses dans l'État, ben y a une option principale qui est ne pas bouger, laisser les choses comme elles sont. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'être de droite, de se couler dans des structures qui existaient déjà avant nous et de considérer qu'à 2 ou 3 petits détails près, ce genre de choses est éternel, la vie est injuste de toute façon, blablabla. Et puis en face, il y a les gens qui se disent, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant d'injustice, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de violence, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de rapports de domination, il doit y avoir de la place pour autre chose, et c'est là qu'on se retrouve d'accord et qu'on commence à clasher aussi.
Alors on s'en voit même endormi, moi je fais un constat, je ne fais pas de politique cet après-midi, mais j'essaie de comprendre pourquoi notre société s'est endormie à partir de 1968 pour se réveiller en 2018, parce qu'en 2018, il y a eu, comme tout le monde le sait, le mouvement des Gilets jaunes qui a bousculé nos certitudes et qui a certainement, je dirais, modifié notre logiciel de pensée. Et je me demandais si c'était une émeute, une révolution ou une jacquerie. parce que ça a bouleversé quand même pas mal de...
C'était clairement une jacquerie, hein. Enfin, c'est à ça que ça ressemble le plus dans mon esprit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça ne s'est pas passé tout seul, hein. Il n'y a pas eu toute l'année 68, en fait, pour ceux qui s'en souviennent, ils sont de moins en moins nombreux, évidemment, mais l'année 68 est l'année qui a cristallisé toutes les révoltes sociales, mais partout dans le monde. Il y a eu des mouvements d'étudiants, des mouvements de jeunesse très puissants, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans tous les pays de l'Ouest européen, il y en a eu au Japon, il y en a eu partout. Et à ce moment-là de l'histoire, le capitalisme est un petit peu mal à l'aise, il tremble un peu sur ses fondations. Et puis, donc, on a toutes les années 70 qui sont des années de contestation, de manifs, de très grande violence, parce qu'il y avait la guerre du Vietnam à l'époque qui était une horreur absolue. On tue des enfants aujourd'hui à Gaza, mais les Américains ne se gênaient pas pour cramer des enfants au napalm. Hein. C'était, et la chronique, c'était aussi tous les jours aux news, avec pas beaucoup de censure sur les photos, donc on voyait vraiment des horreurs. Et puis en fait, ce qui s'est passé, donc si les choses avaient continué comme ça, je crois qu'on était bien parti pour avoir sinon une révolution à la 1917, dont je suis pas sûre que c'était très souhaitable, mais en tout cas une très forte contestation des sociétés telles qu'elles étaient à l'époque. Et la jeunesse née après la guerre voulait un petit peu mettre un petit coup de bonheur et de joie de vivre et de recherche du bonheur dans tout ça. Ça n'arrangeait pas très fort les idées des capitalistes. Et c'est là qu'on voit apparaître ce que j'ai décidé d'appeler néolibéralisme par facilité, parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler. Mais c'est simplement un durcissement du capitalisme. C'est-à-dire que quand les années 80, avec les élections respectives de Thatcher et de Reagan, on provoquait tout un tas de réformes et tout un tas de tout un lavage de cerveau, je dirais, effectué par les mass médias, dont nous constatons les conséquences macabres aujourd'hui. Il a fallu 40 ans pour qu'on puisse mesurer, dans la vie de tous les jours, les effets de cette vision du monde où l'on cherche à éliminer les services sociaux, réduire le rôle de l'État, transformer toutes les activités humaines en marché, et en imaginant que ça va s'équilibrer tout seul. Margaret Thatcher avait l'habitude de dire que les marchés s'auto-régulent et créent de la justice sociale. Alors quand on voit ce que ça a donné, les années Thatcher, on peut se poser la question. Mais c'est maintenant qu'on s'en rend compte, et c'est maintenant qu'on se rend compte aussi à quel point l'idéologie distillée de manière massive par les médias depuis 40 ans a eu un effet et entraîne aujourd'hui la circulation des idées nauséabondes qu'on voit en ce moment, qui consiste à tout mettre sur le dos des immigrés, et ça va tout résoudre.
Alors c'est vrai qu'on est passé des 30 glorieuses aux 40 poireuses, on pourrait dire. Et on aboutit à 1978-1979, à la période Thatcher-Reagan, qui assénait, à juste titre, comme vous le dites, un principe qui est issu d'un acronyme TINA, There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Ça veut dire en fait qu'on avait imposé un modèle néolibéral comme quelque chose qui devait normalement ne plus changer.
Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on ne discute pas, il n'y a pas le choix, on fait comme ça parce que les marchés l'exigent. Et au fur et à mesure que les marchés deviennent des entités humanisées, on parle des marchés comme si c'était des gens, les marchés sont fâchés, sont nerveux, sont contents, sont dans l'expectative, etc., etc. Et au même moment, tout à fait parallèlement, on va nier l'humanité de beaucoup de gens. On crée des structures de travail et d'activité qui sont de moins en moins humaines, qui tiennent de moins en moins compte des facteurs humains. Et je crois que c'est un truc, on constate ça aujourd'hui, on traite les gens comme des objets et les marchés comme des êtres humains.
Alors ça a peut-être un peu plombé, je vais faire de la provocation, ça a peut-être un peu plombé la gauche, qui pendant deux premières années de mandat de Mitterrand a pu mener à bien ce qu'elle souhaitait faire, et puis à un moment donné, il y a une conversion au néolibéralisme, peut-être involontaire, je pense, mais qui a mené les gens... Comment ?
Je ne crois pas du tout que c'était involontaire.
Enfin, moi, je vais être indulgent, mais...
Oui, vous êtes très, très indulgent, là, parce que c'était délibéré, et je pense délibérément planifié depuis le début. C'est-à-dire la grande, grande trahison de la gauche au pouvoir avec Mitterrand. Alors, Mitterrand, tout ce qu'on veut, moi, je veux bien. Mais c'est vrai qu'il a la politique qu'il a appliquée du point de vue économique et la manière dont il a aussi procédé un bourrage de crâne présentant les choses comme, comme absolument inévitables pour cause de compétitivité, etc., etc. On parlait déjà de ça dans les années 80. Les gens qui s'en souviennent, je crois que c'est en 84 ou 85 qu'il y avait eu une émission à la télé qui s'appelait La Crise et qui avait été présentée par Yves Montand, et où Yves Montand avait distillé très exactement cette idéologie qui est que s'il y a du chômage, s'il y a de la misère sociale, c'est parce que les gens eux-mêmes ne sont pas assez dynamiques. C'est-à-dire qu'on a fait porter la responsabilité des difficultés sociales aux individus eux-mêmes et on a déresponsabilisé la finance. Or, la finance contrôlait complètement le mouvement. Et bien sûr que c'est une trahison et bien sûr que c'est une des causes des divisions profondes de la gauche aujourd'hui. Parce que les gens avaient fait confiance au PS quand même.
Oui, parce que Mitterrand...
Moi la première.
Pour citer Mitterrand, ils s'en prendront aux retraites, à la santé, à la sécurité sociale, car ceux qui possèdent beaucoup veulent toujours posséder plus, et les assurances privées attendent de faire main basse sur le pactole, vous vous battrez le dos au mur. Il avait une vision prémonitoire sur le sujet, mais il ne l'a pas été jusqu'au bout.
Il y a toujours un léger décalage entre les déclarations des hommes politiques et ce qu'ils font après. Hein. Mitterrand ne fait pas exception à la règle, mais ils ont tous fait exactement la même chose. Je vous rappelle que Hollande s'est fait élire en disant « mon ennemi, c'est la finance ». Il arrive au pouvoir et il n'a absolument rien fait qui indique que son ennemi, c'est la finance. Il a obéi à la finance comme l'ont fait ceux qui l'ont précédé et celui qui l'a suivi.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que la chapitraison fait presque suite à votre réflexion, c'est qu'on se dit qu'il y avait un super bouclier pour s'excuser de ces néolibéralismes, c'était la fameuse dette, celle qu'on nous sert en disant, voilà, on a une dette. Et je me suis posé la question, moi, en lisant le livre, si ce n'était pas un mythe pour asservir ou restreindre. Ça, c'est une question qu'il faut se poser.
C'est une énorme arnaque, évidemment. Évidemment, on nous parle de la dette. En plus, elle aussi, on la personnifie. La dette est là comme un deus ex machina suspendu au-dessus de nos têtes et qui nous menace du pire. Et ce que je trouve absolument étonnant, c'est cette capacité qu'ont les gouvernants de nous dire on ne peut pas laisser une aussi énorme dette aux générations suivantes. Alors que leur laisser une planète pourrie jusqu'à la garde, où il fera trop chaud, où il n'y aura plus d'eau, ça ne les dérange pas. Ça, ils croient même pas que c'est vrai, d'ailleurs. Et donc, voilà, cette dette, on nous en a beaucoup parlé à une époque, et là, elle revient au triple galop. Bruno Le Maire n'a pas une autre idée en tête que la dette. Bon, il y a évidemment, c'est évident que cette dette ne sera jamais payée. Mais c'est juste une manipulation pour permettre de présenter les choses comme étant inéluctables.
Alors, l'intérêt de votre livre, je vous prie de m'excuser pour vous avoir coupé la parole, c'est vrai qu'on se dit, mais ça nous oblige à nous interroger sur ce que disent nos gouvernants. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les pays les plus endettés, puisque en fait, 6 pays de l'UE conservent une dette publique supérieure à 100% de leur PIB, avec un ratio qui atteint 166%. La Grèce, bien sûr, tout le monde sait qu'elle est en tête. L'Italie, l'Espagne, je ne voudrais pas faire injure à vos origines. Belgique, Portugal, mais on n'est pas les premiers. Et les USA, alors je ne vous parle pas de leur dette abyssale. Alors, je crois qu'effectivement, ce qui est intéressant dans votre livre, ce que vous avez dit, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, vous dites, un pays, ça se gouverne, ça ne se gère pas.
Oui, on parle, c'est Sarkozy qui disait beaucoup, mais ce n'était pas le seul, qu'il faut gouverner la France comme on gère une entreprise. C'est le plus gros, c'est imbécile. C'est pas vrai, il le sait d'ailleurs, il n'est pas idiot le garçon. Une entreprise, ça se gère pour faire du profit. C'est le seul but d'une entreprise, c'est faire du profit. S'il y a un truc qui ne rapporte pas, on le vire. S'il y a moyen d'améliorer le profit, on le fait. Un pays, c'est le contraire. Un pays, un État doit gérer la totalité de la population. Même les gens qui ne rapportent rien. On s'occupe des services publics, on s'occupe de l'éducation, on s'occupe de mettre les gens plus haut qu'ils n'étaient en arrivant. Donc c'est un non-sens. Un État ne peut pas se permettre de laisser tomber les gens parce qu'ils sont malades ou tout petits ou trop vieux. La collectivité doit s'occuper de tout le monde. Donc c'est encore une arnaque. Et cette fameuse dette, il ne faut pas oublier que les dettes ont toujours été dans bien des domaines un moyen d'asservir les gens. Dans l'Inde du système des castes et avec le principe de la réincarnation, un enfant vient au monde, il porte déjà les dettes de ses parents. Et il travaille toute sa vie pour payer la dette avec laquelle il est né. Et il a beau travailler, travailler encore et travailler plus, les systèmes d'intérêt sont calculés de telle façon qu'il mourra plus endetté qu'il n'était né. Et il y a un autre exemple aussi très probant qui est l'exemple des bordels et de la prostitution. Quand une femme était mise dans un bordel par un proxénète, elle devait payer pour la place qu'elle occupait dans le bordel, pour le nettoyage des draps, pour les savonnettes, pour les capotes, pour toutes ces choses qui vont avec l'exercice de la prostitution. Et ça représentait une certaine somme que les passes ne suffisaient pas forcément à rembourser. C'est-à-dire qu'alors que la prostitution est d'une des plus grandes sources de profit qu'on puisse imaginer, c'est hyper rentable, ça l'a toujours été et ça l'est toujours, mais jamais au bénéfice des prostituées qui finissaient la carrière dès qu'elles ne plaisaient plus aux clients et qu'on les virait, elles devaient encore de l'argent aux proxénètes. C'est pour dire que la dette, c'est quelque chose qui se crée, qui se tricote, qui s'aggrave et qui sert à étouffer les gens. Et c'est exactement dans cette situation que se trouvent les démocraties occidentales, cette perpétuelle situation de pays endetté, alors que tous les pays ont toujours été endettés, ça a toujours existé, et que le pays le plus endetté du monde, je crois que c'est les États-Unis. Et ça va, ils arrivent à survivre, hein, ils sont tranquilles.
Oui, puis en plus, on peut mettre la dette au service des solidarités, parce que c'est non, comme le cholestérol. Hein, on s'endette, mais il y a le bon et le mauvais cholestérol.
Et puis, cette idée du PIB aussi, il faut de la croissance, il faut augmenter le PIB. Mais il faut aller regarder de plus près comment on calcule le PIB d'un pays. Vous savez déjà que le travail domestique des femmes à la maison, qui représente des milliards d'heures de travail, n'est pas payé du tout, donc ça compte pas. Ça ne participe pas à la prospérité du pays. En revanche, un incendie ou un accident de circulation ou un accident du travail, comme ça entraîne des dépenses de santé, des choses comme ça, c'est un plus dans le PIB. Donc quand on a un système aussi pourri pour juger de la prospérité d'un pays, il est urgent de changer de système.
En plus, vous dites si bien que tous les facteurs qui participent au PIB ne sont pas pris en compte. Par exemple, vous êtes beaucoup dans le public, des gens font partie des associations. Le bénévolat n'est pas pris en compte. Il paye 0,9 à 1% du PIB.
L'argent est du côté du sexe masculin et le bénévolat du côté du sexe féminin. Ah. Immense majorité de femmes dans le bénévolat et le travail ménager. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, je dis
un
ça
petit peu féministe, mais bien.
Un tout petit peu, non?
Mais c'est bien, de toute façon,
mais tout ça va ensemble. Hein. Tous les systèmes de domination se conjuguent entre eux et se renforcent les uns les autres, que ce soit du point de vue social, du point de vue des femmes, du point de vue climatique, du point de vue écologique. Tout ça, c'est exactement les mêmes mécanismes qui se renforcent les uns les autres. Donc oui, donc tout se tient, quoi, finalement.
Oui, parce que le PIB, quand on réfléchit bien pour augmenter, pour mesurer le PIB, on a souvent tendance à se pencher vers aussi ce phénomène de la croissance derrière laquelle nous courons sans arrêt.
Ben oui. Non, mais c'est absurde. On vit dans un système absurde, d'une absurdité gigantesque. C'est bien sûr la croissance. Ils veulent absolument faire de la croissance. Et donc, vous prenez des cochonneries en plastique fabriquées en Chine, vous les mettez dans un conteneur monstrueux qui pollue, qui fait du bruit et qui sert à rien. Il fait le tour de la planète, il arrive au Havre ou à... C'est en Hollande, c'est Rotterdam, le deuxième.
C'est
Rotterdam, le plus gros port de d'Europe.
Il y a Anvers aussi.
Et là, Anvers, voilà. Et là, il décharge la marchandise, ça part dans les boutiques de tout à un franc, et vous l'achetez, ça casse dans la minute qui suit, et ça va dans les décharges. Et tout ça, c'est de l'activité économique, et tout ça, c'est de la croissance. Et tout ça, ça fait citer la Chine comme l'exemple absolu, avec zéro démocratie et des gens qui bossent comme des malades dans les usines pour faire des trucs qui servent à rien. Et ça, c'est censé être bien, c'est la croissance. Ben, on a le droit d'en douter, hein.
Peut-être que les gens changent leur paradigme sur la consommation parce qu'ils réfléchissent davantage à leur façon de consommer. Avant, on achetait des choses complètement inutiles pour épater des gens qui n'en avaient rien à faire. Et c'est vrai que le système dans lequel on est, là, de croissance, nous amène à consommer sur des matières dont on n'a pas besoin, qui sont génératrices de nuisances au niveau écologique, ça c'est une évidence, et qui satisferont la grande finance, bien
ben
évidemment.
Oui. Enfin, il y a de plus en plus de gens maintenant qui essayent de... Pardon. qui contestent le système et qui ont changé leur façon de consommer. Je crois que tout le monde a changé sa façon de consommer, mais c'est vraiment typique. On dit que les gens sont de moins en moins politisés, ce qui n'est pas faux, mais ils sont aussi de plus en plus capables d'inscrire un militantisme du quotidien qui fait qu'ils changent leur manière de se comporter, de consommer, de se transporter, ils le font, ça, ils passent à l'action directement. C'est très, très remarquable chez les plus jeunes. C'est rare aujourd'hui de voir des gens qui sont autant, enfin, il y en a, hein, mais ils sont minoritaires, ceux qui sont dans la logique de la consommation systématique, etc.
Alors, c'est une question que je me pose, moi, c'est que, est-ce que vous ne pensez pas que la gauche a été incapable de pouvoir se pencher sur le sort des personnes qui sont en détresse économique et de répondre à des questions politiques, voyez ?
Enfin, le peu qui a été fait pour les gens en détresse économique depuis une vingtaine d'années, c'est quand même la gauche qui l'a fait, hein. Ça, je ne veux pas leur jeter la pierre de ce point de vue-là. On voit tout de suite la différence entre la gauche au pouvoir ou la droite au pouvoir. La première chose, c'est la manière dont on traite les plus pauvres, hein, quand même.
La gauche faisait plus rêver.
Alors, moi, je ne vois pas... Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Est-ce que la gauche fait encore rêver ou est-ce que la gauche ne fait plus rêver ?
Est-ce que c'est nécessaire de faire rêver ou ne pas espérer plutôt que rêver ?
Si, rêver, c'est bien.
C'est bien aussi.
Espérer, c'est bien. Rêver, c'est bien. Imaginer, c'est bien. Pour changer la société, il faut tout ça. Il faut faire marcher son cerveau. Mais est-ce que la gauche a beaucoup déçu, mais elle continue à incarner des valeurs qui sont les seules qui valent, qui vaillent ? Donc moi, la gauche me fait encore rêver, hein. Pas forcément la gauche des engueulades entre groupes et des noms d'oiseaux qu'on s'envoie pendant les campagnes électorales. Mais les vrais projets de la gauche, hein. Moi je lis le programme de la NUPES et je le trouve très consistant. Essayez de trouver la même chose avec le programme de Le Pen, puisque la grande mode c'est de renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche, j'adore, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc ce qu'il faut jamais qu'on oublie de penser, c'est que les médias sont entre les mains de gens qui n'ont aucun intérêt à faire réfléchir les gens, quoi.
Alors, votre livre, je vous cite comme ça, vous êtes sûr que vous ne me contredirez pas. La France est
Allez savoir.
C'est dans la page 69. Alors, la France est un pays de droite qui doit beaucoup à la gauche. Et ça, c'est intéressant parce que quand on fait l'inventaire de tout ce que nous avons acquis sur le plan social, on s'aperçoit qu'effectivement, ceux qui pensent que la gauche n'a rien apporté, leur a apporté énormément, mais on ne s'en rend pas compte.
Hein. Bah, c'est pas qu'elle a apporté énormément, c'est qu'elle a tout apporté. Ce qui a été fait pour le progrès social depuis 1945 a été apporté par la gauche. Alors on dit droit de vote des femmes, De Gaulle. Non, pas De Gaulle. C'est le Parti communiste qui l'a fait. Et De Gaulle n'a pas pu refuser parce que le rapport de force avec le Parti communiste à l'époque n'était pas en faveur de la droite. Donc il a accepté. Il aurait eu très très mauvaise... beaucoup de mauvaise foi à refuser, puisque les femmes ont été des résistantes absolument exemplaires et qu'on les a tout à fait laissées accéder aux trucs dangereux, aux missions dangereuses et tout. Là, il n'y avait pas d'histoire de la nature féminine les empêche. Non, elles y sont allées, donc elles méritaient bien ça. Et deuxième chose qu'on a souvent l'habitude de dire, on a l'outrecuidance de dire l'avortement, c'est Giscard. Oh, non! Non, mille fois non. Ça s'est passé sous Giscard, mais déjà grâce à la mobilisation des femmes depuis une dizaine d'années, bon, peut-être pas 10, mais bien 5-6 ans, les femmes étaient dans la rue depuis des années et des années. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il faut aller regarder par qui elle a été votée, cette loi, puisque la totalité de la gauche a voté pour l'avortement et la totalité de la droite a voté contre, à deux ou trois exceptions près. Et les députés de droite étaient trop occupés à balancer des injures antisémites à Simone Veil. Donc ne laissez jamais dire que c'est Giscard qui a obtenu la loi pour l'avortement. Ça n'est tout simplement pas vrai.
En fait, on s'aperçoit que chacun prend les idées des autres. Et aussi que ça
enfin, c'est
paraître.
Surtout la droite qui prend les idées de gauche. Non, je sais comment elle fait, la droite.
Ah oui.
Je vais vous dire comment ils font. Dès que la gauche propose un truc un petit peu moderne, un petit peu qui rend les gens plus heureux, qui rend la vie plus jolie, je ne sais pas, moi, par exemple, le divorce. C'est moche, le divorce, mais quand même, ça fait du bien. Ah, au début, la droite, elle dit non, écroulement de la société occidentale, écroulement du mariage, écroulement des valeurs. La France part à volo si on autorise le divorce. Le divorce arrive, et est-ce que les gens de droite divorcent moins que les gens de gauche ? Je ne crois pas. Deuxième exemple, le mariage gay. Mon Dieu, le mariage gay. À chaque fois qu'on propose un truc un peu nouveau, la droite menace. Mais c'est ça, c'est l'Occident qui s'écroule, les valeurs qui s'écroulent. Ça ne se peut pas, ça ne peut pas arriver, ça va être horrible. Trois semaines après le vote de la loi, qui est-ce qui va se marier ? Eh bien, les gays de droite. Finalement, ils trouvent ça super sympa. Donc d'abord, ils gueulent pour le principe et pour se faire croire qu'ils existent et pour faire croire qu'ils en ont des idées. Ils n'en ont pas, ils nous piquent les nôtres pour dire que c'est de la merde, mais ils n'en ont pas. Et puis font ça. En Espagne, ça a été particulièrement spectaculaire parce que, évidemment, que la droite et l'Église et tout ça étaient contre le mariage gay, vous rigolez. Et puis, alors, ça a été une grosse bataille. Hein. Et puis, la droite, finalement, ne s'est pas autant battue qu'en France. En France, on a eu les plus résistants, hein, quand même, faut le dire. On a eu les manifs les plus insensés. Et c'est rigolo, d'ailleurs, les manifs de droite. Hein. Un jour, il y avait un mec interrogé après une manif et il disait « Il y a les flics qui nous ont tapés ». Non, première fois de sa vie qu'il manifestait, le mec, il avait au moins 45 ans. Alors oui, ben, il aurait dû le savoir, hein, on aurait dû lui dire ça au catéchisme. Bref, on nous vote donc le mariage gay en Espagne, sans douleur et tout. 15 jours après, un des ministres de droite, du parti de droite, Unión Popular, s'est marié et avec voilà. Son mec, tranquillou. Tranquillou balou, pas la honte, quoi. Il aurait pu attendre un petit peu plus, histoire que ce soit moins évident, mais non, ils sont mariés, et puis maintenant, c'est le truc totalement accepté. Eh bien, si vous me trouvez un seul progrès social qui rende la vie des gens plus facile, plus moderne, plus agréable, plus jouissive, et qui a été apporté par la droite, je suis preneuse, hein, ça me fera rajouter un chapitre dans mon bouquin.
Mais c'est vrai que...
Mais moi, j'ai pas trouvé, hein. J'ai pas beaucoup cherché non plus, mais j'ai pas trouvé.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites souvent, vous le dites, c'est pour la droite, c'est la vie platinée, le sociétal lui propice, vous venez de dire, et l'économique la caresse dans le sens du poil. Alors c'est vrai que...
Ouais, l'économique roule pour eux, et le social, comme on est pour l'égalité, ben voilà, faudrait prouver qu'on est de gauche avant de divorcer, tiens, pour avoir à résister. T'as ta carte ? Non, dehors. Non, non, ça serait beaucoup trop stalinien, on ne peut pas se permettre.
Bah, je me suis posé la question, mais ça c'est vraiment hors du livre, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne perd pas nos repères ? Parce qu'en fait, on se demande si les gens de droite ne cherchent pas à faire un peu piquer les trucs de la gauche, et si la droite cherche pas à, si la gauche cherche pas un petit peu à s'attirer les sympathies de la droite en émettant certains anathèmes, mais juste pour faire peur, comme Hollande, qu'en fait, il avait dit « mon ennemi, c'est la finance ». Il n'a jamais rien fait.
Non, bah non, c'est... Oui. Non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, il y a des trucs sur lesquels la gauche, je trouve... Alors attention, là, le terrain miné, je vous préviens. Hein. Il y a un truc sur lequel la gauche n'a pas l'air très claire, et je pense en particulier à Mélenchon, c'est au moment de... C'est vis-à-vis de l'islamisme. Comme à gauche, on est antiraciste, c'est constitutif de notre ADN, c'est une évidence, ça a pour conséquence qu'on a toujours peur de dire quelque chose qui pourrait être interprété comme raciste. Et à partir de là, on s'interdit de juger comme on le jugerait pour des gens qui ne seraient pas musulmans, ou surtout qui ne seraient pas islamistes, hein, parce que musulmans, on s'en fout, mais les islamistes, ça existe, ça représente de la violence et ça représente une manière de se comporter qui est, à mon sens, très incompatible avec les principes de la République. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas plus franchement ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être à la fois tout à fait dans l'entente cordiale avec les musulmans et le fait que la laïcité permet justement à toutes les religions d'exercer comme elles veulent, mais qu'on puisse dire quand même que l'islamisme, c'est juste pas possible ? Et on s'écrase tellement qu'il se passe maintenant ce qui s'est passé dans des écoles où un proviseur dit à une gamine d'enlever son voile, elle l'envoie balader et c'est lui qui est obligé de démissionner. Je trouve que là, on pourrait clarifier un petit peu les choses, non ? On doit pouvoir être un petit peu plus ferme sur des positions comme ça. Et là, je trouve qu'il y a un petit flou artistique qui ne nous arrange pas du tout.
Alors, pour revenir à la gauche, c'est vrai que quand Hollande avait dit ça, je me suis dit, mais quand même... Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que quand on est de gauche, qu'on est au gouvernement, on a vraiment les coups des franges pour pouvoir gouverner quand on sait ce qu'on a en face de soi, qui nous plombe, comme vous dites dans le livre, les semelles, en quelque sorte, et qui nous impose une camisole, quoi.
Ben oui, c'est là que moi, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il faut faire.
Et c'est là où on est...
Parce que je me dis, j'imagine que Hollande, au lieu de tourner Kazakh et de ne pas bouger une patte contre l'ordre économique tel qu'il est, si vraiment il avait dit « bon, maintenant la finance, ça suffit, maintenant on va réglementer, on va changer la manière dont ça fonctionne Qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Est-ce qu'on imagine qu'en face, la finance, qui, je le rappelle, a tous les pouvoirs, qui contrôle les gouvernements, qui contrôle tout, est-ce qu'elle aurait dit « Ah ben oui, d'accord, soyons démocrates, on y va ». Ou est-ce qu'il ne se serait pas plutôt passé un scénario de recours absolu à la violence? Parce que quand les capitalistes, les gens qui ont les moyens de production, qui ont la richesse, qui ont tout le contrôle, tout le pouvoir sur la population, quand on va contre leurs intérêts, ils n'hésitent pas une seconde, ils frappent, ils cognent, ils ont recours à la violence la plus extrême. Et ce n'est pas les exemples historiques qui manquent depuis la guerre d'Espagne, le coup d'État au Chili en 73. Et la répression insensée contre les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ont vraiment fait peur. Ils ont fait peur aux possédants, et on leur a envoyé, et on les a éborgnés, on les a mutilés, et on les a blessés, sans que ça suscite trop de... C'est là qu'on a vu un bon signe de soumission des médias, quand même, la manière dont ils en ont parlé, et sans que Macron ait le moindre geste de sympathie vis-à-vis d'eux, quoi. Maintenant, les gens dans ce pays, en France, les gens ont peur de manifester.
Ben, ça devient risqué.
Ben, moi, j'ai peur. Hein. Je les vois arriver, les mecs. J'ai assisté à deux ou trois excès, à deux ou trois nassages. Ça fait peur.
Oui,
c'est pas les CRS de 68. Hein. Ils sont beaucoup, beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus...
formés pour une guérilla.
Lavage de cerveau, brainwashé. Comment ?
Pour même pour une guérilla urbaine, en fait, quelque sorte. Et alors, là aussi, je me dis, mais dans le livre, d'ailleurs, vous le dites, et ça rejoint un peu ma réflexion, les riches sont plus nombreux que les pauvres. Les pauvres, pardon, sont plus nombreux que les riches. C'est un lapsus, excusez-moi. Les pauvres sont plus nombreux que les riches. Et le rapport de force sur le plan numérique aurait pu inciter Hollande, comme dans le livre, en appeler à la solidarité, en disant, ben voilà, moi je prends une mesure, vous venez avec moi, vous allez dans la rue, vous me soutenez. Voilà ce qui aurait peut-être pu changer les choses.
Ça, c'est ce que j'aurais bien aimé.
Vous auriez aimé.
J'aurais adoré. J'aurais adoré que Hollande, une fois élu, dise, bon, les gars, je ne vais pas y arriver tout seul. Si vous ne descendez pas dans la rue, je ne pourrai pas tenir mes engagements. Donc, descendez dans la rue. Parce que si tout le monde descend dans la rue, alors là, 11 millions de grévistes en 68... Et bien, d'un seul coup, ça devenait possible d'augmenter le SMIC, ça devenait possible de diminuer la durée du temps de travail hebdomadaire, etc., etc. Tout devient possible. Tout est une question de rapport de force. Mais c'est là qu'on comprend à quoi sert le lavage de cerveau médiatique permanent que les gens engrangent tous les jours sans s'en rendre compte.
Il faut dire que l'impact médiatique doit certainement jouer en faveur de ceux qui ont mis leurs billes dedans, dans la mesure où on considère qu'en boucle, on assène les mêmes choses, c'est répété, et la réflexion ne se fait plus, ça se fait plus comme avant, tous les jours.
Enfin, je ne sais pas si les gens réfléchissaient beaucoup plus avant, hein, c'était mieux avant.
Les médias qui leur donnent les moyens
Et puis en plus, il y a un harcèlement permanent de la gauche qui pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais je trouve que la manière dont on parle de LFI et de Mélenchon dans les médias, c'est une humiliation et une agression constante. D'un côté, j'entendais à la radio l'autre jour, on accuse Mélenchon d'être antisémite, ce qui est assez comique. Et d'un autre côté, on n'arrête pas de dire « Ah là là, Bardella, il plaît aux gens, mais qu'est-ce qui plaît aux gens ?» Mais il y a comme il y a apathie, hier, il disait chez Barthès, il y a comme un désir d'extrême droite dans ce pays. Mais ça devient, à force de le dire, ben les gens se disent « Ah ben oui, tiens, il y a un désir d'extrême droite et on ne va pas y couper s'il continue comme ça. » De la même manière, donc ils ont tous très bien compris qu'en aucun cas, le Rassemblement National ne représente un danger pour l'ordre établi, hein, pas du tout, c'est une colonne du temple. Ils feront jamais rien qui nuise au système. Et en même temps, comme par hasard, tout ce qui est LFI, Mélenchon, NUPES, tout ça, c'est le moindre truc est monté en épingle pour dire que c'est les ennemis absolus de la démocratie, enfin tout ça. Je ne vais même pas le répéter tellement c'est scandaleux et systématique.
La gauche est un peu protéiforme, dans la mesure où il y a tellement de courants de sensibilité que pour trouver une voie unique, c'est assez difficile.
Ah, mais on s'en fout des voix uniques, on n'est pas pour les voix uniques à gauche. On est pour la diversité, pour la pluralité. Moi, je serais toujours plus proche d'un écologiste ou d'un socialiste, même les socialistes avec qui j'ai beaucoup de divergences, je suis quand même infiniment plus proche d'un socialiste que d'un type du LR ou du RN. Infiniment, il n'y a pas de comparaison, quoi. Donc moi, ça ne me dérange pas de faire des trucs avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Il y a un bon exemple pour ça, c'est le mouvement féministe. Le mouvement féministe, ça a toujours été le truc le plus bigarré de la Terre, le moins structuré, le moins hiérarchisé. Et pourtant, c'est les féministes qui ont fait la seule révolution qui vaille la peine d'être racontée dans les 50 dernières années, quoi. On a fait une vraie révolution dans la vie des gens. C'est les féministes qui l'ont fait. Elles ne la ramènent pas, elles ne le disent pas, mais elles sont dans l'action et elles le font et elles continuent. Eh bien, il n'y en a pas deux qui sont d'accord, des féministes. On s'en fout, on avance. On y va. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Alors, par contre, moi, je pense que sur l'efficacité, j'essaye d'apporter, me faire l'avocat du diable, sur l'efficacité d'une union, c'est quand même, surtout, ça débouche sur un vote, sur les élections. Et c'est vrai que remporter des élections aussi éparpillées, la gauche n'y arrivera jamais.
Ben, ils n'ont qu'à se mettre d'accord. Hein. C'est leur problème. C'est énervant, à la fin.
Oui. Mais vous restez quand même de gauche, c'est déjà bien. Parce que...
Ah ben, il manquerait plus que ça. Alors, évidemment. Donc,
déjà, les convictions, parce que c'est vrai qu'à gauche, c'est une conviction. Être de droite, c'est pas une conviction, c'est une...
Ça peut l'être, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. C'est juste ne pas bouger, ne rien faire qui puisse remettre en question le système tel qu'il est, quoi. Il y a des gens pour qui le néolibéralisme, c'est la vie platinée, c'est le rêve. Ben, ceux-là, ils n'ont pas envie que ça change. Hein. On a envie que ça change quand on vit de plus en plus mal, quoi. C'est logique. Non, il y en a qui vivent de plus en plus mal et qui pensent qu'ils vont changer en votant Le Pen. C'est pas les plus... C'est pas, comment on dit, c'est pas la pomme la plus brillante du pommier. Mais bon, c'est pas les plus brillants, mais ça marche quand même. Hein.
C'est-à-dire, on débouche quasiment sur un sujet brûlant. D'ailleurs, c'est un peu le mantra du parti que vous citez, c'est l'immigration. Là. L'immigration qui entraîne son cortège de violence et de racisme. Et c'est vrai qu'on arrive à se poser des questions sur l'état de la société. Quoi.
L'extrême droite a toujours fait la même chose. Hein. Dans les années 30, toutes les misères du peuple venaient des Juifs. On les a désignés comme boucs émissaires avec les conséquences que l'on sait. Aujourd'hui, c'est l'immigré. L'immigré, c'est le mauvais, c'est le méchant, c'est le pollueur, c'est le violeur, c'est tout. On tape sur les plus faibles des plus faibles. Il n'y a pas plus faible qu'un migrant qui arrive sur son petit bateau à deux doigts de se noyer ou noyer. Eh ben, c'est sur eux qu'on va taper. C'est eux qu'on va désigner à la vindicte. Et où est passée l'humanité, où est passée la fraternité, je ne sais pas. Quand on nous dit que les problèmes de l'économie viennent de ces pauvres gens qui cherchent juste à échapper à leur sort, je me dis qu'il faut vraiment être stupide pour y croire, quoi.
Ah, ça, c'est contradictoire avec la mondialisation, parce que d'un côté, on se propose de fermer les frontières, de l'autre côté, on se propose de les ouvrir aux négoces internationaux.
Non, oui, la mondialisation, c'est pour les marchandises et les capitaux. Certainement pas pour les êtres humains. C'est un peu le contraire de ce que moi je voudrais, si vous voulez. C'est tout à fait l'inverse. Ça tape sur les gens et ça tape sur les gens faibles. Et c'est la soumission aux plus riches. C'est ignoble. C'est affreux. Et puis on est en train de le vivre comme ça depuis des années et des années.
Alors, j'étais en train de penser à la composition de la politique en France. On s'aperçoit que les gens cherchent à se rejoindre au centre, à savoir que la gauche met un peu, entre guillemets, d'eau dans son vin sur le côté, je dirais, sécurité ou éventuellement de l'immigration. Et puis Marine Le Pen, elle se rapproche par rapport aux petites gens sur leur niveau de vie. On essaye en fait d'aller vers le centre et puis d'un autre côté, on se retrouve avec des extrêmes. Parce que les gens se radicalisent, ils s'aperçoivent que là, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a que l'extrême droite et l'extrême gauche.
Moi, je ne sais pas ce que c'est que les extrêmes. Il y a des gens qui veulent changer le système et puis il y a des gens qui ne veulent pas changer le système. Alors vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas, le RN ne veut pas changer le système, n'a jamais voulu. Et c'est un. Il n'y a qu'à regarder comment ils votent aux assemblées et tout ça, ils ne veulent rien changer dans le système. Et à gauche, il n'y a que la gauche qui est la plus radicale, qui veut changer le système. C'est pas très compliqué, finalement.
Et puis, il y a...
Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, bien sûr que si. Mais Macron. Elle n'est pas exactement au même endroit.
Alors il y a Macron qui est arrivé en fait en faisant dire sortir les clivages droite-gauche. Et en fait, les gens ont perdu leur repère. Mais après, il a voulu.
Il a rien voulu.
Dire que
Macron
les gens...
n'a rien voulu. Macron a été choisi par les milliardaires français pour être mis au pouvoir. Ils lui ont donné les moyens de faire une campagne insensée basée sur les principes de la publicité. Et c'est tout. Il n'y a jamais eu de contenu politique autre que du néolibéralisme appliqué dans ce que Macron raconte. Hein. Et c'est son premier mandat électif, c'est président de la République. On se rend bien compte que c'est d'un mépris pour la politique. Une carrière politique, ça se fait en se faisant élire, et d'abord à un petit échelon, et puis on progresse, et puis ça se construit comme n'importe quelle carrière, dans n'importe quel domaine. Et là, c'est la... Comment ça s'appelle la, l'émission de télé où il y en a un qui gagne le Loft. Non, c'est pas le Loft, c'est... allez, aidez-moi, quoi.
C'est pas Koh-Lanta. Non.
Koh-Lanta, je sais pas, en tout cas.
Non.
En tout cas,
je suis en train de chercher...
Comment Ouais, la Starac, voilà. Voilà,
la
merci.
Starac, voilà. La Starac.
Voilà, la Starac, c'est ça. Le mec, il a gagné. On lui a donné tous les moyens de gagner. Il a fait un nombre de couvertures en... C'était en 2017, hein, la première oui. fois. Il a fait un nombre de couvertures de magazines absolument insensé. Bref, on nous l'a servi sur un plateau. Et voilà. Et il a gagné en disant ni droite ni gauche. Et les gens se disent, tiens, on ne l'a jamais essayé celui-là. On va voir ce que ça change. Et bien maintenant, ils voient. Les chômeurs ont vu. Les chômeurs s'attendaient à rien de bon. Hein, mais... Oui, on a revoté pour lui. Enfin, moi, j'ai voté pour lui la première fois parce que j'avais peur de Le Pen. La deuxième fois, non. La deuxième fois, j'y suis pas allé. Hein. Faut pas charrier.
Pareil. Enfin, en tout état de cause, c'est vrai que c'est pour ça que le livre est intéressant, parce que en disant pourquoi je reste de gauche alors que je suis dans un système où les personnes perdent leurs repères, parce qu'on se demande effectivement qu'est-ce que quelqu'un de gauche à l'heure actuelle, qu'est-ce que quelqu'un de droite en fonction de ses principes. C'est pas, je pense que c'est plutôt des principes qu'une ligne politique.
On perd ses repères parce que le néolibéralisme entraîne, ça a des conséquences. Le fait de dire que les marchés font la loi, que l'individualisme fait la loi, qu'il s'agit d'être le premier, le gagnant, le vainqueur et d'écraser les autres, pour y arriver, ça peut pas donner des bons rapports entre les gens. Ça avilit la totalité des relations humaines. Les relations humaines sont basées sur la coopération et la solidarité. C'est ça qui fait avancer, c'est ça qui fait tenir un corps social, c'est ça qui le cimente. C'est certainement pas la compétition et c'est certainement pas l'élimination des plus faibles. Le darwinisme social, ça peut pas donner des bons résultats. Alors c'est pas la gauche qui fait perdre les repères de la gauche sont toujours les mêmes, ceux de la droite aussi d'ailleurs. C'est les... Monsieur, arrêtez de bâiller parce que je vais finir par croire que vous vous ennuyez. Et donc voilà, c'est pas la gauche. Je crois qu'il faut pas blâmer la gauche parce que à gauche on réfléchit, on écrit des livres, on essaye d'imaginer, on a des projets, on se trompe, et ben on se trompe, on y retourne. Et ce qui fait perdre les repères, c'est quand on vous dit mais non, on vous fait tourner sur vous-même jusqu'à ce que vous soyez étourdi, on vous dit ça n'existe pas la droite, ça n'existe pas la gauche. Et voilà, et bêtement, Macron ça existe.
Alors, on arrive vers la fin de notre entretien. On continue, bien sûr, sur le sujet de l'écologie, parce qu'il ne peut pas être absent de votre réflexion. On arrive à se poser des questions s'il n'y a pas une corrélation entre le pillage et les désordres climatiques et les flux migratoires qui en découlent.
Bonne question. Ah. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout se tient, évidemment. Évidemment que l'écologie, on a commencé à s'en préoccuper parce que le système économique dans lequel nous vivons est basé sur le pillage. Alors, on ne pille pas seulement les pauvres. On ne pille pas seulement les pays pauvres. On pille aussi la nature et les ressources naturelles. On décide que les poissons qui sont dans la mer, ben, on a le droit de taper dedans comme on veut, sans limite, tant qu'on veut. On arrive en Amérique du Nord et on tue tous les bisons parce que comme ça va affamer les Indiens et ils vont mourir de faim et on aura plus de place pour nous. On pille depuis 200 ans, on pille la planète sans rime ni raison. Forcément, au bout d'un moment, ça zone et c'est maintenant. Donc, vu qu'il y a encore beaucoup de gens qui estiment que c'est pas du tout un problème, je sais pas ce que ça va donner, mais ça se tient, bien sûr. Le pillage, on pille, c'est le règne des pillards. Les néolibéraux sont des pillards. Les Bernard Arnault, Elon Musk et compagnie.
Alors donc, en fait, on essaye de raisonner sur les conséquences alors qu'on devrait plutôt traiter les causes.
c'est comme en médecine. Si vous traitez les symptômes, vous faites beaucoup d'argent, vous vendez beaucoup de médicaments, et puis il faut peut-être essayer de guérir les causes. C'est pareil pour l'écologie.
Donc il y a de la place pour la gauche encore, pour réfléchir au sujet.
Mais il n'y a que ça. Il y a de la place pour la gauche dans la vie des gens, c'est dans les urnes qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le système n'est pas non plus étudié pour que la gauche gagne, hein. Il faut le savoir, ni ici ni ailleurs. Hein. On a, je sais pas, il faut toujours plus de voix pour élire un député de gauche qu'un député de droite. Enfin, sauf la présidentielle, c'est une voix, une personne, une voix. Mais autrement, tout est fait pour que les choses restent comme elles sont.
Alors, les Français attendent peut-être l'aube providentielle, alors que c'est vrai qu'avec l'éparpillement des sensibilités de gauche, c'est beaucoup plus difficile d'en trouver un. Hein.
Mais on s'en fout de l'homme confidentiel. C'est pareil, c'est pas notre truc.
C'est dans l'esprit des gens, ça.
C'est pas notre truc. Ben, je suis pas sûre de ça. Vous savez, en France, en ce moment, il y a de plus en plus d'initiatives au niveau des gens. Il y a de plus en plus d'associations qui font des tas de choses, qui viennent au secours des plus pauvres, des plus faibles, qui inventent des nouveaux systèmes, qui inventent des nouvelles choses sans arrêt tout le temps. On n'en parle pas dans les médias. Mais si on en parlait, je suis sûre que les gens seraient moins désespérés, moins déprimés. On n'en parle pas, on préfère parler des attentats, des explosions, de l'insécurité, etc., etc. On ne parle pas de tout ce qui se passe de magnifique dans la société, en ce moment même, par des gens qui n'ont pas de moyens, à qui on ne donne pas de subventions, à qui on coupe les subventions, et pourtant qui sont sur le tarmac tous les jours.
Et vous l'évoquez dans le livre, le rôle des médias, effectivement.
Ouais.
C'est vrai qu'il faudrait des médias qui donnent un peu plus d'optimisme aux personnes qui font des choses bien, alors qu'on est en train de constater, on plombe le moral des gens.
Vous écoutez les news le soir, il y a de quoi se flinguer, franchement, il y a de quoi se pendre. Alors que tout ça est vrai, ce qui est raconté est certainement vrai, mais il se passe aussi des tas de trucs absolument formidables. Et on en parle très peu. Il y a une émission sur France Inter, le midi, qui dure un quart d'heure, je crois. Et on parle d'initiatives comme ça, des gens, des associations, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ? Carnet de campagne, voilà. On va chercher dans les hameaux, dans les villages, des gens qui, tout seuls, avec juste leurs moyens personnels, ont réussi à résoudre des problèmes énormes au niveau régional, au niveau local. On nous parle beaucoup qu'il faut manger local et distribuer local. Et bien voilà, ça, il y a des gens qui organisent ce genre de trucs. Ben, c'est super. On pourrait en parler un petit peu plus qu'un quart d'heure par jour sur une chaîne de radio, quoi.
En tout cas, Bébert et Isabelle ne font qu'un. Ça, c'est une certitude.
Ça, c'est pas faux.
Notre ours est bien sûr sur la banquise. Et puis, ma foi, on navigue. On arrive d'ailleurs avec un sens du timing, parce que hier, c'était la journée de la Terre.
Absolument, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui ici.
Voilà.
Non, pas du tout, c'est pas vrai, c'était prévu.
Alors là,
je voulais juste faire un petit... Je parlais des maladies, quand on dit qu'on préfère soigner les symptômes que les causes. Et j'ai un chapitre sur l'obésité. L'obésité, les gens deviennent gros, tout le monde est gros. Comment ?
J'avais oublié d'en parler.
C'est un exemple qui est particulièrement marquant, je trouve. Ça fait 50 ans qu'on empoisonne littéralement les gens avec de la bouffe industrielle. C'est délibéré, ça a été étudié. Ils ont étudié chez Nabisco et dans toutes ces boîtes alimentaires américaines quelle était exactement la proportion sucre-sel, parce que dans toute la bouffe industrielle, il y a à la fois trop de sucre et trop de sel, et on calcule exactement la quantité qu'il faut pour créer de la dépendance, comme avec les clopes. Pareil, on crée de la dépendance et donc on se met à manger des hamburgers, des chips et tout ça, que de la bouffe industrielle. Cette bouffe industrielle ne nourrit pas, mais elle fait grossir. Elle crée des stocks de graisse et elle crée l'obésité. Et maintenant, on parle de l'obésité comme d'une maladie, avec une épidémie, c'en est une, hein. Enfin c'est pas une maladie, mais elle crée des maladies, et on dit épidémie d'obésité. Alors épidémie, c'est le Covid. Il arrive un truc et puis ça s'attrape. L'obésité, ça s'attrape pas parce qu'on touche un obèse, qu'on l'embrasse, qu'on lui fait des papouilles. On le fait si on veut, si ça fait plaisir, mais ça ne s'attrape pas comme ça. Ça s'attrape en bouffant de la merde, comme on disait à une époque. Et ça, pour guérir de ça, il faut arrêter la bouffe industrielle. Certainement pas mettre les gens au régime leur mettre des anneaux gastriques, des trucs de torture, les culpabiliser, les faire se haïr eux-mêmes parce qu'ils sont pas beaux, parce qu'ils sont trop gros, parce qu'il faut pas être gros, parce que ça n'arrête pas. La minceur, plus on donne aux gens à bouffer de la merde qui fait grossir, et plus on pose la minceur comme idéal absolu, pour que tout le monde se haïsse soi-même, et on fait pas de grandes choses avec des gens qui ne s'estiment pas eux-mêmes. Donc c'est un excellent exemple de la différence que pourrait donner une véritable politique de gauche, c'est-à-dire anticapitaliste, et le fait de trouver des solutions, faire semblant de trouver des solutions à des problèmes qu'on a créés soi-même, qui est la grande spécialité de l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Ça va ensemble. Pour l'industrie pharmaceutique, l'idéal, c'est quand 100% de la population est malade et sous traitement. Ça, c'est l'idéal. Ça, ça claque de la thune pendant toute sa vie. Et c'est malheureux pendant toute sa vie. Alors je trouve pas ça génial comme système, je vous le dis.
Alors, on laissera bientôt la parole au public, parce que le livre, il y a tellement de choses à dire. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la réflexion qui avait été faite à Brigitte Bardot quand on lui avait demandé, c'est bien joli, la libération des femmes, mais je sais plus si, à qui on l'avait demandé ça. C'est à vous d'ailleurs, c'est peut-être pas à Brigitte Bardot, c'est à vous qu'on vous avait demandé.
On me confond souvent avec Brigitte Bardot.
C'est bien joli, la libération des femmes, mais à quand la SPA? Oui, parce que je vous confonds pas.
Oui, on m'a dit ça sur un programme de télé animé par un de ces cerveaux du siècle que sont les animateurs télé, que je connais bien. Et ils m'ont dit, ah oui, alors vous vous occupez de la libération des femmes, d'accord, c'est bien joli, il n'y a pas que les femmes. À quand est-ce que vous vous occuperez de la SPA? Ce qui voulait dire, puisque vous vous occupez des femmes, puisque vous en êtes à vous occuper des animaux domestiques, occupez-vous aussi des animaux. Et moi, j'avais dit, ben oui, vous avez raison, je nous classe dans la même catégorie. Et je préfère mille fois être identifiée avec une vache, une chienne ou une libellule de sexe féminin, qu'avec un animateur de télé, un mâle alpha de la télévision française, quoi, vous voyez. Donc, qui est censé être un être humain, pourtant. Comme on se trompe, hein, c'est fou, ça. Et oui, bien sûr, on m'a dit ça, entre autres. Hein, faut pas être une féministe dans les milieux médiatiques il y a 20 ans, c'était quand même, comment dire, la chasse aux... Je veux pas dire la chasse aux sorcières, faut pas charrier. Mais enfin, c'était quand même rock'n'roll.
Et là, on arrive pour terminer sur Romain Gary, qui effectivement avait un discours pour le moins néolibéral qui puisse paraître, puisqu'il évoquait le fait qu'on pouvait être des magnifiques perdants. Alors, je ne sais pas si la gauche, c'est être des magnifiques perdants, mais vous êtes une magnifique gagnante, vous, hein, aujourd'hui.
Ben, non, justement, je crois que je suis bien une magnifique perdante. D'abord parce que je suis fille de républicain espagnol, alors pardon. Pour être perdant magnifique, on est perdant magnifique en sortant de notre mère, mais on ne sait pas gagner, ça, on ne sait pas faire. On sait faire plein de trucs, mais pas ça. Mais moi, je trouve ça beau. Et Romain Gary, qui est un de mes héros, il trouve que les seuls gens qui rattrapent l'humanité sont les perdants et sont les faibles, parce qu'eux, ils essayent de s'adapter et d'imaginer un autre monde plutôt que de rester accrochés à ses privilèges. Donc, vive Romain Gary.
Voilà. Et l'ours et Isabelle, même combat.
Voilà, donc, exactement.
Ben, merci. Il est 18h07, le timing est respecté, donc on va pouvoir...
Vous êtes trop fort.
Ah oui, super. Donc malgré... Ça a été pour les dents, c'est bien impeccable, pour la justice.
Oh, ben, je vous ai raconté ça
au début, mais ça y est, ça va s'oublier. J'espère que...
C'est bon, on a une tradition d'accueil en Auvergne.
Vous avez de la bienveillance, vous voyez, je cache ma joue, voilà.
Voilà. Alors donc, le public va pouvoir interagir. Vous avez des questions à poser. Alors, je pense qu'il y a un micro. Je vous demanderai peut-être une assistance. Il doit y avoir un micro qui se promène dessous. Et on va pouvoir certainement tirer le fil là pour... voilà. C'est pesable. Hein. C'est pesable. On peut continuer. Mais c'est bon. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est parfait.
Il faut que je m'avance. Bonjour madame. Vous avez parlé de la gauche, évidemment. Alors je ne sais pas de quelle gauche on peut parler, parce que j'aurais voulu avoir votre point de vue sur ce qu'on appelle les politiques de l'offre, sachant que... La politique de l'offre, pardon. Sachant que, pour ne pas remonter trop haut, c'est François Hollande qui a initié une politique de l'offre avec le CICE, le crédit d'impôt compétitivité. Et cette politique de l'offre, ensuite, elle a été poursuivie, finalement, par Emmanuel Macron, qui n'a fait que, que reprendre avec une autre dénomination cette politique de l'offre. Alors je ne sais pas quel est votre point de vue sur cette question. Et sur une échelle de 0 à 10, je ne sais pas où vous vous situez, à gauche, hein, de quelle gauche
ça dépend,
vous partez et vous parlez finalement.
Vous partez, le centre c'est 0 et l'extrême gauche c'est 10.
Alors,
ou le contraire.
Oui, si vous voulez.
Hein, alors si le centre c'est Macron, en fait il est à droite, hein, on va dire qu'il est au centre, et qu'on peut aller jusqu'à 10, je vais aller jusqu'à 22, un truc comme ça. Vous voyez ? Je sais, bah oui, il y a pas grand-chose à garder hein, dans le système. Je parle de l'économie, hein. Je parle pas de tout le reste, parce que moi, je trouve qu'on vit une époque géniale, et la technologie et tout ça, c'est génial. Mais du point de vue économique, c'est la catastrophe, il n'y a rien à récupérer. Alors, le CICE, bah, c'est très simple. Les néolibéraux, ils ont commencé par dire, le discours des années 80, c'était plus d'État. Plus d'État, plus de services publics, parce que les gens sont des assistés et ils veulent que avoir de l'argent sans travailler, et c'est hors de question, donc plus d'État. Et puis ils ont réfléchi une deuxième fois, puis finalement on s'aperçoit qu'ils n'ont rien contre l'État qui donne de l'argent, à condition qu'il le donne aux riches. S'ils le donnent aux riches, ils sont d'accord. Et ils sont tout à fait pour l'intervention de l'État. Regardez pour le Covid et regardez depuis avec le CICE. Vous avez complètement raison et ça continue. Les milliards continuent à pleuvoir sur les entreprises, sur les actionnaires, sur tout ce côté-là de l'économie. Et on continue à les compter combien on donne d'argent à un chômeur au bout de 18 mois. Et en plus, on met en position d'accusation, puisque mettre les chômeurs au pain sec et à l'eau, encore plus qu'ils le sont déjà, c'est pour les remettre au travail parce qu'en fait, ils sont paresseux. Vous comprenez, dans un système dominant-dominé, les dominants jugent toujours, pour se justifier eux-mêmes dans leur brutalité et dans leur violence, que les dominés ont des défauts. Vous pouvez prendre les ouvriers, vous pouvez prendre les noirs, vous pouvez prendre les femmes. On est forcément bêtes et paresseux. Et donc, on est obligé d'être corrigé par les dominants qui, eux, savent ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, puisque... Personne ne mentionne jamais que dans les milliardaires, 95% sont des héritiers. Ils ont commencé par hériter du premier million de dollars ou du premier million d'euros. Après, les autres viennent plus facilement. Que quand ça vient. Comment ?
Pourquoi Hollande ?
Pourquoi Hollande quoi ?
Pourquoi c'est lui qui lance ? Parce qu'ancien secrétaire général du Parti socialiste, c'est lui qui lance aussi.
J'ai dit tout à l'heure que Mitterrand avait lancé la machine et que nul socialiste depuis ne l'a démenti. Et notre ami Glucksmann continuera pareil. Ils sont tous, c'est ce qu'ils appellent de la gauche de gouvernement, c'est-à-dire de la gauche qui arrive à imposer des réformes sociétales, mais qui se couche absolument devant le capital. Et à partir de là, il est autorisé à gouverner. Mais qu'il y mette un petit peu de radicalisme, un petit peu de remise en cause et un petit peu de simple justice, et vous verrez qu'on le laissera tomber et qu'on créera un nouveau mouvement permettant de se faire élire.
Je peux c'est compléter ça, je le pense. Propos de d'Isabelle Alonso.
Oui, parce compléter, que permets, c'était un peu incomplet.
Parce que simplement pour dire que ce qui fait la faiblesse du système que François Hollande a mis en place et Macron, c'est l'absence de conditions. C'est-à-dire qu'en fait, s'il avait mis des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du CICE ou de l'exonération de l'ISF, ça aurait marché, je pense, parce qu'il y aurait eu un deal. Et c'est ça là, qui fait qu'il y a une sorte de cadeau qui est fait. C'est qui est ressenti comme un cadeau parce qu'il n'y a pas de conditions. Alors que quand vous êtes chômeur, vous êtes obligé de remplir des conditions, c'est draconien, c'est très contrôlé, et c'est là où il y a des équilibres. Je pense que c'est toute politique mise à part, je pense que c'est une erreur de l'avoir pensé ainsi.
Ça fait partie du truc, c'est pas une erreur, c'est délibéré, c'est organisé. On fait exprès de rendre les choses extrêmement compliquées pour la moindre allocation. Hyper compliqué, il y a 15 000 conditions à cumuler, et s'il manque un quart de virgule sur l'alinéa 15 du 15e document, on vous le refuse et on vous fait revenir 6 mois après, etc., etc. C'est comme ça. Il s'agit de mettre des bâtons dans les roues des gens qui ont vraiment besoin. Mais les néolibéraux commençaient par dire qu'il fallait affaiblir l'État, comme les Chicago Boys l'avaient préconisé au Chili, c'est-à-dire qu'il y a plus, comme Milei en Argentine va essayer de le faire maintenant, c'est-à-dire que l'État n'a plus aucune intervention sur le plan économique, zéro. Mais c'est pas vrai. En fait, ils continuent à faire pleuvoir de l'argent sur les secteurs que eux trouvent productifs. L'argent du Covid, on a le gouvernement a lancé est venu en aide aux entreprises, etc. pendant tout le Covid. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus. Le maximum d'argent a été alloué à des entreprises et à des grosses entreprises. Et puis les toutes petites entreprises ont crevé la gueule ouverte. Et quant aux gens, bah depuis, on s'attaque à la retraite, on s'attaque à l'école, on s'attaque au chômage, on s'attaque à toutes les prestations sociales, quoi. Non, je vous jure, c'est à chier. Il n'y a rien à rattraper.
Vous êtes arrivé à travailler avec Laurent Ruquier ?
Ben oui, oui, très bien, pourquoi ? C'est pas un grand capitaliste, hein ?
Non, mais...
C'est peut-être un petit peu complice des médias, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est quand même quelqu'un qui doit son argent à son travail. Hein. C'est pas un capitaliste.
N'hésitez pas, la parole est libre.
Mais oui, n'hésitez pas, c'est le premier, le plus courageux.
Bonjour.
Bonjour.
Lauriano Sanchez. De Clermont-Ferrand.
Comment vous avez dit ?
Lauriano. Lauriano.
Ça me rappelle quelque chose. Hola, qu'est-ce que
c'était juste pour vous demander, on peut être féministe et un homme ?
On doit.
On doit l'être.
Enfin, si on est un démocrate cohérent. Hein.
Tout à fait.
Autrement, il y a d'autres choix possibles, mais c'est moins bien.
Je vous remercie.
Ah, c'était tout ?
Je voudrais savoir, vous avez écrit un livre sur les hommes et le féminisme ?
Si j'ai écrit un livre sur les hommes et le féminisme, oui, j'ai écrit en 2021 un livre qui s'appelle « Les vrais hommes sont féministes ». Finissez la phrase comme vous voulez. Oui. Les autres sont des incohérents, on va dire.
Bien. Merci.
Oui, j'ai écrit « Les vrais hommes sont féministes », c'est-à-dire que je pense que le mythe de la virilité enferme les hommes dans un choix impossible et que tant qu'ils en seront à prouver leur virilité, ben, ils ne comprendront pas de quoi ils retournent. Donc quand un homme comprend qu'être un homme viril ne consiste pas à essayer d'écraser les femmes, mais au contraire à coopérer avec elles, eh ben, ça rendra tout le monde plus heureux, quoi. Mais il en reste encore pas mal des cro-magnons, hein, mais on avance. Enfin, je crois. Enfin, j'espère. Je ne suis pas sûre. Ça dépend des jours. Donc oui, bienvenue. Merci. Bienvenue chez les féministes.
Oui, vous parliez de Glucksmann.
Ils vont vous tenir.
Bonjour. Vous parliez de Glucksmann et vous disiez que lui aussi s'inclinerait devant la finance. Vous en êtes vraiment sûr ? Est-ce qu'il a développé quand même certains sujets concernant l'économie, il se bat là contre la corruption vis-à-vis de l'Europe, certains députés, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de lui ?
Je peux rien dire de mal de lui. Le garçon est sympathique, il tient la route, voilà. Franchement, il tient le... je pense simplement, j'espère me tromper, rien ne me ferait plus plaisir, je pense simplement qu'il est pieds et poings liés avec cette partie de la gauche qui a choisi de se compromettre et qui donc ne peut pas. Ça fait partie du cahier des charges que de s'engager à ce qu'on appelle la gauche de gouvernement et qui, sur le plan économique... on en a eu beaucoup. Hein. Faut se souvenir qu'à une époque, on écoutait parler Strauss-Kahn, on le trouvait génial. On écoutait parler tous. Quoi. Ils étaient de y a, au PS aussi, il y a la droite du PS et la gauche du PS. Hein. Et il y a tous ceux qui étaient vraiment économiquement parlant cohérents avec le système. On ne peut pas tellement compter sur eux pour faire changer les choses. Et je crains que Glucksmann, s'il reste engagé sur certaines de ses déclarations, il aura beaucoup de mal à rester au pouvoir, s'il y arrive. Mmh. Donc voilà. Moi, ce n'est pas par manque de sympathie hein, que je dis ça. C'est pas parce que j'ai constaté des choses qui me paraissent bien, bien installées. Quoi. Autrement, je ne demanderais pas mieux. Hein, moi.
Bah oui. Et une autre question, je peux ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de Ruffin ?
J'avoue que dans le personnel actuel, c'est de très loin Ruffin mon préféré. Je le trouve formidable. Je ne sais pas s'il sera formidable tout le temps. Oui. Je ne sais pas si une fois arrivé au pouvoir, il pourra faire ce qu'il peut. Mais je trouve que pour l'instant, c'est vraiment au moment où souvent Mélenchon, je le trouve un peu scrogneugneux et un peu atrabilaire et tout ça. Il ne se rend pas très bien compte. Enfin, il suit son truc, lui, mais j'adore l'entendre parler. J'adore le voir parler. C'est un orateur à nul autre pareil. Personne ne s'exprime comme lui et personne ne dit autant de vérité que lui. Mais quand il descend de l'estrade et qu'il commence à invectiver un peu tout le monde, c'est pas, il a souvent raison sur le fond, mais je trouve qu'il a un peu tort sur la forme quand même. Ruffin, c'est pas du tout ça. Ruffin, il est plus... D'abord, il fait plein de trucs dans tous les sens, il bosse, il est hyper cohérent avec lui-même. Il représente quelque chose que je trouve assez solide, ouais. Je verrais bien, et en plus, je pense que les gens le suivraient, les gens le suivent aisément, parce que je crois qu'il est sincère et qu'il est honnête. En tout cas, pour l'instant, on sait,
pour l'instant,
on sait jamais.
Voilà.
Voilà, j'aime bien Ruffin, moi.
Ils évoluent.
Ben oui.
Voilà, merci.
C'est très piégeant, la politique, hein, faut reconnaître, c'est... Allez, les timides. Comment on dit, les Clermontois? Le Clermontois et la Clermontoise seraient-ils et elles timides? Vous avez vu, je fais de l'inclusif dans le discours.
Oh. Mais je peux me permettre de donner une phrase d'André Comte-Ponville qui disait
non.
Il a affirmé, reste qu'on soit de droite ou de gauche, à l'être intelligemment. Et il affirmait, c'est le vrai. Plus difficile, c'est le plus important. L'intelligence n'est d'aucun camp. C'est pourquoi nous avons besoin des deux, de l'alternance entre les deux.
Voilà. Et devinez dans quel camp se classe-t-il lui-même?
Voilà.
Dans les très intelligents. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, il est très, très intelligent, mais il y a un truc auquel il n'a jamais rien compris, comme d'ailleurs la plupart des membres de l'intelligentsia française plutôt de gauche, mais aussi de droite, c'est que s'il y a un truc qu'ils n'ont rien compris, c'est le féminisme. Hein. Des analphabètes du féminisme. Vous voyez le mec le plus intelligent, le plus brillant, il se met à parler des femmes et il tourne analphabète. C'est extraordinaire. Ils ne lisent pas, ils ne se renseignent pas, mais ils ont quand même un avis sur tout. Donc, Comte-Sponville et son ami Ferry.
Oui.
Voilà, voilà. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre.
Ah, c'est un peu provocateur, mais il fallait bien faire ça avec
mais
vous.
Tout à fait, mais je vous en remercie. Ça m'a donné l'occasion de dire du mal. Ce n'est pas tous les jours.
J'ai une autre question.
Ah, c'est une copine, elle.
Que pensez-vous de la formation des économistes? Parce que quand vous les entendez, ils sont tous formatés de la même façon. Ce sont eux... les gouvernements, enfin, nos gouvernants les écoutent, non? Ils donnent les pistes.
Ben, ils ont une fonction, il ne faut pas oublier que l'économie, ce n'est pas une science. Hein. On dit science économique, on dit ça, c'est une opinion, c'est une analyse, c'est
oui,
une observation.
Voilà.
Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une science. Hein. Il n'y a rien n'est démontré économiquement. Ensuite, les gens s'auto-octroient la qualité d'économiste pour venir la ramener dans les médias, mais ils répètent la même chose comme des perroquets depuis 40 ans, et rien de ce qu'ils annoncent n'existe. Ça n'existe pas. Alors, dans un pays, une culture, une société qui choisit d'envoyer plus d'enfants en école de commerce que faire de la philo en fac pour faire ses humanités, est un pays qui se condamne. Ça nous donne des générations d'épiciers qui ne savent que compter, que manipuler des tableaux Excel de croissance, de machin, et qui ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas, donc j'ai aucune admiration particulière pour les économistes. On me dit qu'il y a de grands économistes, je veux bien.
Il y a bien les économistes révoltés.
Oui, oui, il y en a. Oh, ils sont d'ailleurs vachement plus intelligents que les autres, je ne sais pas pourquoi.
Et il y avait Marie qui a été, comment il s'appelait, Marie
sur France Inter.
Lors de l'attentat.
Oui, 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 sur France Inter.
Pardon.
Bernard Maris.
Oui, oui. Il était intéressant.
Oui, il y a un mec, il y a aussi un économiste brillant, qui, le malheureux, s'appelle Zemmour. Je ne sais pas comment c'est son prénom. Vous l'avez entendu à la télé? Il est super brillant, il est vachement bien. Ouais,
je ne connais pas.
Mais justement, dans l'économie, s'il n'y a pas l'humain,
l'humain
qui est l'absence, ce qui est un peu intéressant dans l'analyse économique, c'est de voir quelle est la place de l'humain que l'humain peut occuper. Et c'est cette place-là que la gauche devrait normalement occuper pour pouvoir redonner un peu plus d'humanité à cette économie. Parce que l'économie, c'est des chiffres, c'est une...
Mais ce n'est pas la gauche qui fait l'économie, je vous dis ça. Oui. Mais comment ils feraient pour influer sur des choses alors qu'ils n'ont pas les postes de pouvoir où on peut le faire?
Mais c'était peut-être une base de réflexion, parce que la gauche, en opposition, va pouvoir réveiller les consciences. C'est pas que souvent, on dit souvent que la gauche est un parti d'opposition. Et est-ce que vous allez être condamné à ça?
Alors, j'ai écouté trois économistes à la télé qui pensaient que pour renflouer l'État, hein, payer la dette, il fallait taper sur les retraités.
Ben voyons, c'est toujours pareil.
Hein?
On prend un marteau et on tape sur les plus faibles. C'est ni les plus riches ni les plus puissants, les retraités. Voilà. Non, j'apprends qu'ils votent beaucoup à droite. Hein. Ça me déçoit un petit peu, mais bon. C'est devenu quoi, les 68ards? Alors, ils se mettent à voter à droite. C'est pas facile pour moi, merde alors. Oui, bien sûr, faut taper. Encore une fois, taper sur les plus faibles.
J'interviens parce que moi, je suis de formation économiste.
Un peu, ah, c'est ça.
Sans être le spécialiste, je me permettrai de dire que ça permet aussi de faire l'économie de la réflexion sur les salaires. Effectivement, quand un retraité a un niveau de vie qui est supérieur à celui d'un salarié, c'est une anomalie du fait que le salarié ne gagne pas suffisamment sa vie, à mon avis. C'est là où il y a le problème.
Là, je suis d'accord.
C'est là où ça vient.
Qu'il y a des retraités qui ont... qui gagnent plus d'argent que des salariés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et puis je voudrais dire au passage que quand on parle de la retraite comme ça, les retraites des femmes dans ce pays sont 40% inférieures à celles des hommes. Hein.
Voilà, il y a aussi ça.
Faut le savoir aussi, ça.
Ça compte énormément.
Ben oui, une catégorie pauvre et même très pauvre, et après on dit que c'est des privilégiés, ça va.
Là, je pense qu'on va pouvoir passer. Je veux remercier Isabelle Alonso pour son intervention et de être venue à Clermont-Ferrand. Merci Isabelle.
Ben, vraiment, ça fait un plaisir.
Et ben, moi aussi, c'est merci partagé. Hein, j'espère que tout le monde. Et ben, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé activement à notre entretien. Et je veux vous laisser entre les mains de notre charmante autrice.